prière vers lui et j'aimerais avec vous continuer de nous exhorter et continuer de partager cette bonne parole que le Seigneur nous a accordée au moment de nos difficultés et aussi de nos souffrances. On peut lever les yeux vers le Seigneur, comme Gaussou a pu nous partager pendant sa présidence de la souffrance. Et dimanche passé, on a partagé aussi de la souffrance, de la persécution. Et samedi, c'était les obsèques de notre sœur bien-aimée Béatrice. Et nous avons aussi vu que c'est un moment de souffrance, mais aussi un moment de consolation et d'espérance. Voilà, donc nous allons continuer à réfléchir précisément sur la souffrance de la dépression, parce que nous voyons qu'autour de nous, dans le monde, on parle beaucoup vraiment des personnes qui sont seules chez eux, isolées et qui sont totalement exposées à la souffrance, particulièrement de la dépression. Et notre Église, comme Gaussou a si bien le dit, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés de certaines souffrances que le monde connaît. Nous sommes aussi des hommes, des femmes dans le monde et nous sommes aussi exposés à toutes ces souffrances et même ça peut aussi être dans l'Église. C'est comme dans le cas que nous allons particulièrement regarder aujourd'hui, c'est le cas d'Élie en 1 Roi 19, versets 1 et 8. 1 Roi 19, verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons lire. Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Tout cela, la parole de Dieu qui nous parle précisément de Élie. Élie, vous le savez, c'est un grand prophète que Dieu a saisi dans le peuple d'Israël pour annoncer, proclamer la vérité de Dieu, sa parole, et surtout pour amener le peuple à lui. Donc, en regardant nos Bibles, nous allons fouiller de Genèse à Apocalypse. C'est très difficile de voir une seule référence biblique dont le mot dépression est décrit. Et même peut-être dans d'autres versions, on ne peut même pas en trouver. Ce n'est pas pour autant que ces hommes et les femmes de la Bible n'ont pas fait face à cette forme de souffrance. Nous prenons aujourd'hui le cas d'Élie, mais aussi il y a le cas de le cas de Jonas, il y a aussi le cas de Job, il y a aussi d'autres personnes bibliques comme Jérémie qui ont souffert de la dépression et qui ont été totalement submergés par leurs émotions, des idées morbides et aussi des moments vraiment de qui ne veulent plus même, sentent même plus l'importance de la vie. Et si ces personnes bibliques ont été touchées par cette souffrance, c'est pas nous, nous sommes aussi des hommes, nous sommes aussi des femmes, et nous pouvons aussi d'un moment à un autre être touchés par cette maladie. Et nous voyons tout près de nous, vers la fin du 19e siècle, il y a un homme qui s'appelle Charles Spurgeon, qui a été un grand prédicateur, mais qui a vécu toute sa vie avec cette difficulté, cette souffrance qui est la dépression. Aujourd'hui, je ne me prétends pas vraiment connaître tous les contours de cette souffrance, parce qu'il y a des psychologues, il y a des psychiatres et il y a des personnes peut-être habilitées qui peuvent mieux expliquer cette situation que nous, en tant que partageants de la parole, des personnes qui proclament la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit fermer la Bible et dire aux psychologues et aux psychiatres de tout gérer. Parce que l'homme n'est pas simplement constitué de corps, mais aussi de corps, d'âme et d'esprit. Et cela nous permet aussi de voir que l'esprit a besoin d'être exhorté et le spirituel a besoin d'être restauré. Après les grandes victoires sur les prophètes de Baal, avec une intense activité, Élie se retrouve vraiment dans une situation où il est démuni, il cherche à s'isoler, il cherche à fuir son pays, à abandonner ses proches, et même il cherche à ce que Dieu prenne sa vie. Et là, ça nous pose des questions. Comment ce grand prophète, après une éclatante victoire dans le chapitre 18 et d'une manière publique devant les 400 Baals, Élie fait appel au feu de Dieu qui va consumer les sacrifices et immédiatement, peu après, avec l'ultimatum de Jézabel, Élie se retrouve sans ressources. Il a peur, il tremble, il veut fuir, il veut s'isoler, il abandonne ses proches, même celui qui l'aide quotidiennement, il l'abandonne quelque part pour pouvoir s'enfoncer dans le désert. Aujourd'hui, on peut se poser la question sur le cas d'Élie, comment comprendre la dépression, comment ça se manifeste, comment la dépression se manifeste dans le cas d'Élie. Et aussi, on peut se poser d'autres questions. Comment et quelles sont les causes de sa difficulté, sa souffrance? Et maintenant, et aussi, quelle est l'attitude d'Élie quand il est face à sa souffrance? L'attitude d'Élie face à sa souffrance. Cela nous permettra non pas de faire une recette pour tout le monde, mais chaque cas a sa situation et son analyse, et on doit avouer que c'est complexe, c'est une souffrance complexe, c'est une souffrance invisible, c'est une souffrance où seules les personnes qui ont traversé ces souffrances-là peuvent vraiment le dire et le ressentir et expliquer réellement ce qu'ils vivent. Et donc, on ne va pas vraiment d'une manière, au cours d'une prédication, tout mettre, analyser, mais juste pour nous interpeller. Parce que nous avons des proches, nous avons des amis, nous avons des frères et sœurs à côté de nous, et même au sein de l'Église, qui sont face à cette souffrance-là, et que souvent, en ignorant leur souffrance, on peut plus les enfoncer que les aider à se relever et à pouvoir retrouver des ressources internes pour pouvoir continuer leur marche. Comment se manifeste la souffrance d'Élie, que nous avons nommée une dépression? La dépression affecte l'être intérieur de l'homme. Versets 3 à 8, nous voyons que Élie, son être intérieur est affecté. Sa pensée, ses sentiments et tout ce qui constitue la force de son être intérieur est touché. Même cette prise de décision. Souvent, il prend des décisions, mais en réalité, il va au contraire de ce que réellement il devrait aller. Ses capacités intérieures sont réduites, affaiblies. Et c'est ce que la dépression peut vraiment nous faire ressentir. Ensuite, il sous-estime. Il a une faible estime de lui-même. Il est fatigué. Il a une énergie qui est totalement absente. Manque d'appétit. Il dort beaucoup. Nous voyons que l'ange va mettre beaucoup de temps pour le réveiller. Il est sous le gêné, il dort. L'ange lui réveille. Et encore, il s'endort. Une minute après, il s'endort. Donc, il y a une hypersomnie qui est là. Il y a le manque d'appétit. Combien de fois l'ange cherche à lui faire manger, mais il s'endort. Et surtout, les sentiments de perte d'espoir. Il dit que au verset 10, il répondit: « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils sont massacrés. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà, ils cherchent à me prendre la vie. » Voici les sentiments d'Élie face à la situation qu'il traverse. Il perd complètement l'espoir que réellement Dieu est avec lui. Il oublie la réalité de la présence totale et entière de Dieu avec lui. Lui qui a prié que la pluie ne tombe pas et Dieu répond à sa prière. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et grâce à sa prière, encore, il part, il monte sur la colline et il persévère dans la prière et Dieu lui répond en envoyant la pluie. Devant les 400 prophètes, il fait appel à Dieu pour que le feu consume le sacrifice et Dieu répond à ses prières. Tout cela, Élie a oublié. Dieu n'est plus avec moi. Je suis vraiment tout seul. Les prophètes ont été massacrés et maintenant c'est moi qu'ils cherchent maintenant à éliminer. L'isolement, la fatigue, l'hypersomnie, les sentiments de perte d'espoir, tout cela sont les manifestations de la souffrance d'Élie. La dépression affecte notre être entier. Verset 4. Quand la personne est dans cette souffrance, sa réflexion n'est plus d'une manière... il n'a plus une réflexion totalement possible de tenir parce que sa réflexion est toujours poussée par des sentiments négatifs, par des sentiments qui ne vont plus, qui est le contraire de ce qu'il devrait vivre. C'est pourquoi Jacques 1, verset 2 à 4 nous dit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez être exposées, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Si l'être intérieur est atteint, ça veut dire que notre corps est atteint, notre âme est atteinte et même notre esprit est affecté. Parce que l'homme est constitué de corps et d'âme. Cependant, si on prend certains qui disent que l'homme, la dépression, la souffrance, c'est le corps seulement. L'esprit n'est pas atteint. L'esprit, l'âme est isolée. Et donc, on ne considère pas que l'âme est affectée par cette souffrance-là. Et là, on va donner l'occasion en disant, voilà, comme si c'est le corps qui est atteint, donc ce n'est plus la peine de s'occuper de l'âme. Alors que si on prend l'être entier d'une manière totale, le corps et l'âme, le corps et l'esprit, nous savons que le corps et l'esprit ont besoin chacun d'être identifiés dans cette souffrance et d'apporter des soins qui sont adaptés. La dépression impacte notre vie spirituelle. Nous voyons que le questionnement d'Élie est complètement spirituel. Il souffre au niveau physique, mais aussi spirituellement. Il est en train de se poser des questions. Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que réellement j'ai accompli la volonté de Dieu en allant contre les 400 prophètes de Baal qui sont en train de détourner le peuple vers Dieu? Est-ce que réellement j'ai une légitimité de vivre encore? Ça ne vaut pas la peine. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, au niveau spirituel, Élie est affecté. Il est totalement, il remet en cause sa foi, il remet en cause même son appel qui lui a permis, que Dieu lui a fait pour aller à ramener le peuple vers lui. Nous allons maintenant passer à la deuxième question, quelles en sont les causes? On peut voir, en lisant les textes, voir que effectivement, on peut soit prendre la question d'une manière spirituelle, tout est spirituel, ou on peut prendre la question d'une manière, tout est la chair, tout est le corps. Alors que c'est important comme de le rappeler, l'homme n'est pas simplement corps, il n'est pas tout à fait au niveau âme ou esprit. L'homme est tous les deux à la fois. Il a le corps et aussi il y a l'âme et l'esprit. Les causes sont multiples dans le contexte. Dans le contexte d'Élie, c'est sous l'oppression d'Akab. On voit dans les premiers versets que Élie, Akab a raconté à la reine Isabelle, Isabelle, tout ce qui a été fait, tout ce que Élie a accompli devant le peuple d'Israël, et Isabelle a formulé un ultimatum. Tout ce que tu as fait au prophète de Baal, attends-moi, j'arrive. Et là, on voit que c'est totalement de l'oppression. C'est venu des autres. Non pas seulement il a été d'une manière hyper actif, d'une manière prophétique, mais aussi c'est venu du fait que dans le pays, il y avait des situations à régler. Et c'était compliqué de pouvoir régler ça, ce problème des prophètes de Baal, du détournement du peuple de Dieu vers ces Baals-là, ces idoles, sans que le peuple ne soit vraiment opposé. Donc, l'opposition a été l'un des difficultés que Élie a rencontrées. Et aujourd'hui, on peut faire ces parallèles. Qu'est-ce qui peut nous oppresser aujourd'hui? Le monde peut nous oppresser aujourd'hui. Le lieu de travail peut être des lieux d'oppression. Au lieu d'être des lieux de joie, d'épanouissement, le travail peut être une oppression. Combien de personnes font du burn-out qu'on emploie aujourd'hui avec des mots qui sont bien enjolivés, mais en réalité, c'est de l'oppression. Parce que la personne ne trouve plus la joie, la paix dans son travail, mais la personne est réduite comme une machine. La personne n'est pas traitée comme un humain, mais la personne est traitée comme un pion. On le déplace là où on veut, on le met là où on veut. Et la personne est aussi obligée de subir une oppression à cause de son travail. Et c'est ce que Élie a subi ici, avec le roi Akab et sa femme Jézabel. Ensuite, la dépression fait venir de nous-mêmes, c'est-à-dire d'abord, notre corps peut être exposé à la dépression d'une manière ou d'une autre. Ça peut être physiologique. Ça peut aussi avoir aussi le fait de s'isoler, d'avoir la tendance de se mettre en colère, par exemple. Quand on se met en colère tout le temps, chaque petite chose, on se met en colère, ça peut aussi être des sources où on peut vraiment avoir la tendance de s'isoler et de se retrouver vraiment dans une difficulté qui est que de souffrance. Il y a aussi le fait que ce n'est pas forcément l'isolement, ce n'est pas forcément le corps en tant que tel, mais aussi l'action du diable. Satan peut, d'une manière, se cacher derrière notre souffrance. Et nous voyons précisément le cas de Job. Job a été totalement éprouvé par Satan en demandant l'occasion, en demandant à Dieu cette possibilité d'être de toucher le corps et la vie de Job. Et donc, dans certains cas, on oublie trop souvent que le diable peut rester derrière, quelle que soit la maladie scientifiquement expliquée, l'ennemi, le diable peut rester derrière toute souffrance et nous, et surtout qu'on n'arrive pas à l'identifier. Même si son rôle est difficile à identifier, nous pouvons dire que Satan aussi peut être derrière une souffrance telle que aussi la dépression. Il y a aussi Dieu qui peut aussi permettre. Parfois, Dieu peut nous faire passer par des situations difficiles. Il y a un prédicateur qui dit que Dieu couche ses enfants souvent dans le noir. Dieu peut décider de nous faire passer dans une telle difficulté afin de tirer en nous, de permettre que nous puissions être transformés. Ésaïe 45, 7 nous le décrit pleinement en disant que Dieu crée la lumière et Dieu crée aussi les ténèbres. Dieu peut nous permettre de passer dans des situations afin de nous transformer. Il dit, Ésaïe 45, 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. » Donc, en analysant les causes de la souffrance d'Élie précisément, nous voyons que la souffrance peut venir de l'oppression des autres qui sont autour de nous, soit le travail, soit la famille aussi, soit aussi les amis, soit les mauvaises compagnies, soit aussi nous retrouvons dans un contexte où nous pouvons être vraiment surpassés, dépassés par les situations et nous exposer à la dépression. Et aussi, ça peut venir de notre corps, de nous-mêmes, de notre responsabilité. en étant toujours souvent dans la colère, en étant toujours seul, isolé et souvent exposé à la souffrance. L'action aussi de Satan, ne pas oublier que Satan ne veut jamais se faire identifier comme étant derrière une souffrance. Il va tout faire pour nous amener, nous détourner de Dieu et détourner notre situation sur d'autres choses que lui. Et Dieu peut aussi nous permettre parfois de passer par des souffrances de telle sorte pour nous transformer. 1 Samuel 2, versets 6 à 7 nous dit aussi, l'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il fait remonter. L'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit, il abaisse et il élève. Cela nous rappelle simplement que Dieu est souverain, quelles que soient les origines, les causes de notre souffrance, ou de la dépression. Dieu est souverain, rien n'échappe à son contrôle. Dans la souffrance, il prépare aussi un moyen de sortir vers sa lumière, vers sa paix et la joie. Comme il nous le dit, dans notre épreuve, le Seigneur prépare aussi une porte de sortie, une occasion de rendre gloire à son nom, une occasion de dire merci Seigneur parce que j'étais dans le trou. Mais tu m'as fait sortir de ce trou-là et j'ai eu cette lumière et cette paix que tu donnes. La grande question maintenant, c'est quelle est l'attitude que nous devons avoir face à de telles souffrances? Et nous allons rester toujours dans le cas d'Élie. J'aimerais pas vraiment aller dans d'autres situations comme si je suis en train de faire une recette parce que c'est complexe la dépression et ce n'est pas un sujet vraiment qu'on peut régler dans une seule prédication. C'est juste pour nous alerter qu'autour de nous, il y a des situations de dépression, il y a des situations où on entend surtout à l'heure actuelle où il y a le confinement, il y a l'isolement, quelque chose qui est imposé. Et donc, on doit vivre avec et chercher à comprendre la situation et surtout et travailler à aider les uns les autres à pouvoir surmonter, à pouvoir faire face. D'abord, l'attitude d'Élie, il était prêt à affronter ce combat, même si cette situation lui a surpris. Il était prêt parce que Élie était quelqu'un qui était disposé devant les 400 balles. Il savait que Dieu était avec lui. Donc, quelle que soit la situation qui va se présenter, il fera face. Et c'est vraiment quelqu'un qui dans l'âme, c'est un combattant dans l'âme. Et face à la dépression aussi, le Seigneur nous amène aussi à affronter comme un combat, n'est pas minimisé. Au verset 7, l'ange lui dit, lève-toi, mange, car le chemin peut être long pour toi. Souvent, nous minimisons les situations et souvent, non, c'est un coup de blouse. C'est pour un jour, ça va, je vais prendre deux jours de repos et ça va passer. Et finalement, ça dure et nous n'avons pas de ressources et nous demeurons dans un contexte ou dans une situation où qui n'est pas du tout la manière d'agir. Ensuite, acceptez de l'aide dans votre entourage, de votre entourage. Au verset 7, nous voyons que c'est l'ange qui vient. Élie était sans ressources, sans aide, mais l'ange est venu lui dire, lève-toi, mange, prends des forces, car le chemin serait long pour toi. Et lorsque Élie se recouche, l'ange continue, persévère de lui exhorter à se mettre debout et à prendre des forces pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons besoin des uns des autres. l'isolement n'est pas la meilleure solution. Le fait de se replier sur soi n'est pas la meilleure solution. Et même le fait de s'enfuir, comme Élie l'a fait, n'est pas réellement la bonne solution. La bonne solution, c'est de savoir que nous avons des frères et sœurs avec nous qui peuvent nous aider et nous comprendre. Ensuite, accepter que notre vie est dans les mains de Dieu. Job 1, verset 20 à 21, Job avait cette pensée-là. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est le chant que nous avons chanté en premier lieu durant ce culte. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Et là, c'est une confession de foi. Job confesse dans sa souffrance que tout dépend de Dieu. Si Dieu n'a pas repris, personne ne peut reprendre. Ma vie est dans la main de Dieu. Ma vie dépend de Dieu et elle est en Dieu. Et donc, cette confession de foi, même dans la souffrance, au sein de la détresse, cela doit être réellement notre tableau de bord. Le Seigneur, ma vie est dans la main de Dieu. Ma vie dépend de lui et je resterai attaché à ce Dieu-là et à ce Seigneur. Faire confiance en Dieu. Nous voyons que le verset 8, Job, Élie, lorsqu'il s'est levé, il a mangé, il a bu, il a pris confiance et il a marché 40 jours, 40 nuits. Imaginez la confiance qu'il a mise au Seigneur. Il s'est levé, il a accepté l'exhortation de l'ange. Lève-toi, mange, car le chemin serait long pour toi. Il s'est levé, il a mangé et après, il a repris des forces. Il a été fortifié par le Seigneur. Même au sein de la détresse la plus terrible pour nous, le Seigneur est là pour nous fortifier. Il suffit réellement de garder confiance que le Seigneur est là. Le Seigneur peut nous fortifier, peut nous relever et nous donner la possibilité de continuer notre marche 40 jours, 40 nuits, sans s'arrêter, sans aucune autre ressource que la ressource du Seigneur. Et aussi la prière et la parole. Nous voyons Jésus qui était exposé à 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, affaibli. Et l'ennemi vient maintenant lui donner des idées qui n'est pas à la volonté de Dieu. Lui tenter, le diable vient tenter Jésus. Et Jésus lui répond avec la parole. Jésus lui répond par ce que la parole veut, par ce que Dieu veut en manifestant la parole de Dieu. Et nous aussi, dans notre souffrance, le Seigneur nous appelle aussi à demeurer dans la parole de Dieu et aussi attaché à la prière. C'est notre ressource. Nous ne pouvons rien faire autrement que vraiment rester dans la prière et dans la parole de Dieu. C'est vrai, on peut consulter les médecins, on peut consulter les psychologues, on peut consulter les psychiatres, on peut consulter tout ce que Dieu a donné comme sagesse, intelligence dans le monde pour nous soigner. Mais aussi, le Seigneur peut aussi, à travers sa parole et la prière, nous ressourcer et nous donner la force de nous relever. L'un ne doit pas remplacer l'autre, mais l'un et l'autre vont ensemble, comme le corps et l'esprit, l'âme vont aussi ensemble. Le psaume 130 nous dit, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Et nous voyons ici que ce psaume décrit parfaitement, le psaume 130, tout le chapitre décrit une personne qui est dans l'attente et dans l'espérance que Dieu va le relever, que Dieu va lui donner encore la possibilité de voir le bonheur, de voir la lumière. Parce qu'il est sombré dans une épaisse ténèbre à cause de cette situation qu'il traverse, comme une situation comme nous pouvons le comparer aussi avec une situation de la dépression. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne la possibilité de voir que au sein de la détresse, le Seigneur est avec nous. Au sein de notre souffrance, n'oublions pas que le Seigneur est avec nous. Chers amis, chers frères et sœurs, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, ce matin, sache que le Seigneur est avec toi. N'oublie pas de regarder, de fixer tes regards sur lui. N'écoute pas les murmures de Satan, les murmures de l'ennemi qui va te dire « tu ne vaux rien ». Comme Élie a dit, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres, qui va te ramener à quelqu'un que Dieu n'aime pas. Dieu t'aime dans ta souffrance, il est avec toi, il t'entoure par devant et par derrière, il te relève, il veut simplement que tu fixes les regards sur lui et que, oui, il te donne cette nourriture qu'il a donnée à Élie. Il a mangé cette nourriture et il a tenu 40 jours, 40 nuits. Il a marché sans arrêt et ensuite il est arrivé au mont Horeb. C'est au mont Horeb, au sein du mont Horeb, que Élie a rencontré Dieu. Par un bruit fracassant au début et Dieu n'était pas là. Et par un sourd murmure et Dieu était là. Et voici, Élie a été délivré. Il a vu Dieu avec lui. Il a vu la présence aimante de Dieu, la présence bienfaisante de Dieu auprès de lui en ce moment-là. Que le Seigneur nous aide à garder nos yeux fixés sur lui, à tourner nos regards sur lui dans ces moments et dans ces circonstances où nous sommes souvent exposés à la dépression et aussi à d'autres souffrances, mais qui n'est pas une souffrance, voilà, qui n'a pas de fin, parce que le Seigneur lui-même a mis une fin à toute souffrance et à tout ce qui peut nommer comme souffrance à la croix. Il a vaincu et il a donné la victoire à nous aussi aujourd'hui pour triompher de nos détresses et de nos souffrances. Prions. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons relu l'histoire d'Élie au moment de sa souffrance. Et nous pouvons considérer aujourd'hui que cette souffrance qu'il a vécue, chacun de nous peut aussi être assujetti à ce genre de souffrance. Et nous voulons, Éternel, nous remettre à toi et lever nos regards sur toi, Seigneur. Parce que tout dépend de toi, tout vient de toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les causes et le but. Oui, de ces souffrances, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Nous voulons confesser que tu es avec nous. Nous ne voulons pas remettre en cause une personne. Nous ne voulons pas remettre en cause Satan. Nous voulons simplement confesser que tu es là, tu es avec nous et tu nous as délivrés de toute détresse. Tu nous as délivrés de toute souffrance. Tu nous as délivrés de la mort, car ta mort à la croix a tout mis sous tes pieds. Que ce soit les œuvres de l'ennemi, que ce soit notre propre responsabilité, tu as tout mis à la croix afin de nous donner une victoire éclatante, une restauration complète à travers ta résurrection et à travers ta montée au ciel. Aujourd'hui, tu sièges auprès du Père et tu connais chacun de tes enfants ici dans ton Église. Tu connais qui est exposé à cette situation de souffrance. Seigneur, nous te demandons, Éternel, de parler à chacun, de ne pas rester seul avec sa souffrance, mais d'avoir l'audace d'oser parler, d'oser chercher à ce que les frères, les sœurs puissent être des aides, des personnes qui vont, oui, accompagner, des personnes qui vont relever, encourager, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'enlever tout tabou de cette souffrance dans le cœur, dans la pensée des uns des autres, et que nous puissions oser parler librement, parler avec la conscience que toi, tu es là et que tu veux nous aider par-dessus tout à nous faire sortir de cette difficulté que nous pouvons traverser. Merci pour ton Église. Bénis ton Église. Permets que ton Église soit totalement restaurée par ton esprit et que nous puissions vraiment se sentir entourés les uns avec les autres et que dans la bienveillance, on aménage les uns et les autres en les permettant de ne pas se sentir moins aimés, de se sentir abandonnés, se sentir isolés. Aide-nous à nous entourer les uns des autres. Que ton esprit de grâce nous donne la compassion afin que, Seigneur, chaque membre de ton Église qui compose ton Église puisse être écouté, puisse être aimé, puisse être entouré et que nous puissions avancer ensemble, grandir ensemble et bénir, célébrer ton nom ensemble pour ta gloire. Bénis le reste de cette journée de ce culte et permet que ton nom soit glorifié et béni en toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.